Les enfants ont rejoint leur groupe d'école du dimanche. Et nous poursuivons, dans l'ordre plus ou moins, notre petite série sur les 10 commandements. Alors, on avait vu les 3 premiers commandements et on a déjà vu le 5e. Mais on va repartir à partir des 3 premiers. Donc, les 3 premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'avoir l'Éternel, que l'Éternel comme Dieu. Deuxième commandement, tu ne fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Et donc tu ne les adoreras pas, tu n'auras pas d'idole, ne pas avoir d'idole. Le troisième commandement, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Tu ne pas utiliser, a-t-on dit, le nom de Dieu abusivement. Alors, ces trois, ça ne commence pas là. Il faut toujours se rappeler que c'est une mauvaise façon de disposer des commandements. Puisqu'il faudrait suivre le texte et dire que ça ne commence pas là, ça commence avec ce que Dieu a fait. Et les 10 commandements commencent par cette formule. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte du pays où tu étais esclave, de la maison de servitude, du pays où tu étais esclave. » C'est ça le commencement des 10 commandements. Et donc, une bonne façon de les écrire, c'est de ne jamais oublier ce qu'on appelle le préambule. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Dieu rappelle qui il est. Avant de dire, de demander quelque chose, il rappelle qui il est. Il rappelle ce qu'il a déjà fait pour son peuple, la victoire qu'il lui a déjà donnée. Il les a pris pour lui-même, il les a rachetés, il les a libérés, pour qu'ils soient à jamais sa possession, son peuple, pour qu'ils lui appartiennent. Et si le peuple accepte cette alliance, eh bien, il s'engage aussi à accepter ses lois. De la même manière, si vous acceptez l'amour de Dieu en Jésus-Christ, si vous acceptez le Christ dans votre vie, vous acceptez en même temps de le suivre, de suivre Jésus. Vous acceptez de lui obéir, d'obéir à sa parole. Si quelqu'un m'aime, il aimera ma parole. Ça fait partie de la nouvelle alliance. Alors, venons-en maintenant donc au 4e commandement. Il y a 15 jours, on avait vu le 5e un petit peu à l'avance, mais voilà. Venons-en maintenant donc au 4e commandement. C'est en Exode 20, on va le lire dans le texte, Exode 20, et je lis à partir donc du verset 8 à 11. Pense à observer le jour du sabbat, le jour du repos, et fais-en un jour consacré au Seigneur, consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel, le Seigneur, a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur, a béni le jour du sabbat, le jour du repos, et en a fait un jour qui lui est consacré. Alors, si vous avez des amis juifs pratiquants, vous savez à quel point le jour du sabbat est important pour eux. Du vendredi 18h au samedi 18h, en gros, ils ne travaillent pas. Ils ne prennent pas la voiture, ils ne mettent pas en marche des appareils électriques. C'est le jour de Dieu, c'est la prière, c'est le repos. Et si pour nous ça paraît contraignant, si pour nous certaines pratiques paraissent aussi incohérentes, sachez, il faut toujours se rappeler que pour le juif pratiquant, le sabbat peut être source de joie, de paix, de liberté, de fierté. Alors, pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous ne le pratiquons pas de cette façon? Alors, c'est une questions importantes et on y reviendra dans la méditation d'aujourd'hui. Mais d'abord, pour nous rafraîchir les idées, il faut mieux, et pour mieux comprendre, pourquoi il faut mieux comprendre pourquoi Dieu a donné cette loi. Et on peut dire que cette loi contient plusieurs messages. Tout d'abord, cette loi nous dit que le travail n'est pas tout. C'est le premier point que je voulais voir. Pourquoi cette loi, le travail n'est pas tout? Cette loi nous dit que le travail n'est pas tout dans la vie. Et on a besoin d'entendre ça. Il y a des jours pour travailler, il y a un jour pour ne pas travailler. C'est une grâce de s'arrêter de travailler. Ça, c'est difficile pour nous de comprendre ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes plus en Égypte, nous étions esclaves. Nous pouvons ne pas travailler. Nous ne sommes pas non plus inquiets pour notre pain quotidien. Dieu y pourvoira. Pour ce jour de pause, nous faisons confiance à Dieu. Voilà. Autrefois, quand on allait au culte en voiture, on ne voyait pas d'agriculteurs sur les routes les jours de dimanche. Les agriculteurs n'allaient pas dans les champs le dimanche. C'était très mal vu. Aujourd'hui, ceux qui viennent de la campagne, on voit des agriculteurs sur des tracteurs de plus en plus grands. Il y a de quoi être triste pour eux. Ils ont perdu le sens de ce jour mis à part pour Dieu. Ils sont bien sûr, comme beaucoup, sous la pression des banques, des toutes sortes de grandes firmes. Ils ne voient pas beaucoup leur famille, et en voulant gagner un jour de plus, ils perdent plus qu'ils n'imaginent. Mais ce qu'on dit là, on peut le dire aussi, bien sûr, pour nous, gens des villes, pour nous, citadins. Pour tous, le message de ce commandement, c'est que le travail n'est pas tout. Et on a besoin d'entendre ça, dans une société qui ne fonctionne qu'au pas de charge. Alors, pourquoi cette loi? Il y a une deuxième raison. C'est qu'il faut consacrer du temps à Dieu. L'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour qui lui est consacré. Ce n'est pas un jour seulement pour rien faire, c'est un jour à consacrer à Dieu. Alors, bien sûr, on va dire toute ma vie est consacrée à Dieu. Toutes mes journées sont consacrées à Dieu, lundi, mardi, mercredi. Voilà, c'est un peu vrai. Nous servons Dieu quand nous préparons à manger pour nos enfants. Nous servons Dieu quand nous prenons le train pour aller travailler à 7h03. Nous servons Dieu toute la semaine, d'accord. Mais pour pouvoir prier tranquillement, pour pouvoir lire la Bible, pour pouvoir se placer en position d'écoute par rapport à Dieu, c'est tellement dur. Pour pouvoir adorer Dieu au milieu de son peuple, eh bien c'est autre chose. Il faut du temps. Il faut mettre du temps à part pour Dieu pour cela. Il faut du calme. Il faut du temps de qualité. Il faut laisser à l'âme le temps de rattraper le corps, a dit un poète. Et donc il faut du temps pour Dieu, pour tout ça. Tous les jours un peu de temps. Dans le culte au quotidien. Toujours, tous les jours, mettre un peu de temps à part pour Dieu. Mais aussi, mettre un jour entier à part pour Dieu dans la semaine. Un jour entier. Et dans les années 70, il y avait des bouquins qui paraissaient disant « Chrétien, 7 jours sur 7 ». Alors c'est sûr, ça voulait dire qu'il ne fallait pas être seulement chrétien du dimanche. Qu'il fallait être chrétien dans la semaine, partout où nous sommes. Mais pour être chrétien 7 jours sur 7, il faut d'abord être un chrétien du dimanche. Pour être chrétien 7 jours sur 7, il faut d'abord mettre en tout cas un jour à part pour pouvoir se ressourcer. Dans l'Exode, le sabbat, le repos est lié à la création. C'est ce qu'on vient de lire. Tu te souviendras que l'Éternel a créé le ciel, la terre en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Dans le Deutéronome, fin du chapitre 4, début du chapitre 5, le sabbat est lié à la sortie d'Égypte. Tu te souviendras que l'Éternel t'a sorti d'Égypte à bras forts, à main étendue et t'a tiré d'esclavage. Donc, le sabbat, le jour du repos est lié à la grandeur de Dieu, hein, d'abord, en Exode, et le jour du repos est lié à son salut, hein, dans le Deutéronome. Et donc, le jour du repos est un jour de célébration, hein, où on se tourne vers la grande, vers Dieu, hein, qui est dans sa grandeur, et on se tourne vers le Dieu de notre salut pour le célébrer. Chaque semaine, nous devons restaurer notre âme, nous devons prendre du temps pour restaurer notre âme grâce à la communion fraternelle, grâce à la prière, et grâce au culte personnel chaque jour, et culte communautaire ensemble un jour par semaine, grâce à l'adoration communautaire. Et donc, consacrer du temps pour Dieu, c'est l'expression normale de la foi. Je ne dis même pas que c'est une obligation. Car si c'est une obligation, ce n'est plus la foi, mais la peur qui nous anime. Non, c'est une expression normale de la foi, de l'amour qui nous anime en tant qu'enfants de Dieu. Alors, pourquoi cette loi? Il y a encore une autre raison. C'est que notre corps a besoin de repos. C'est pas seulement notre âme qui a besoin de renouvellement. Nous n'avons pas qu'une âme. Ce serait l'autre excès, ceux qui pensent qu'ils n'ont qu'un corps, mais ceux qui pensent qu'ils n'ont qu'une âme aussi. Nous n'avons pas qu'une âme qu'il faut nourrir, c'est vrai. Nous avons un corps. Et nous avons, notre corps a besoin de repos. Nous sommes faits comme cela, pour nous reposer régulièrement, un jour sur sept. Même les super sportifs qu'on voit à la télévision ou sur les stades, comme les footballeurs qui paraissent vraiment à l'abri de tout, même les footballeurs super entraînés sont fatigués en fin de saison et on le sait, ils ne donnent plus grand-chose en but. Nous avons tous des limites. Nous avons intérêt à respecter notre corps, sinon il se rappellera à nous. Nous avons intérêt à respecter l'équilibre entre le travail et le repos. Et le texte dit, le septième jour est le jour de repos consacré à l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun travail ce jour-là. Toi, d'abord, mais non plus ton fils et ta fille. Donc ça s'adresse, le jour de repos est aussi pour la famille. Et non plus ton serviteur ni ta servante. Donc le jour de repos concerne aussi nos employés. On y reviendra dans l'application à la fin. Et puis, non plus l'âne, ni le bœuf. Donc ça concerne aussi les animaux, tous ceux qui nous servent, toutes nos machines, on dirait aujourd'hui. Donc, le jour du repos, un jour consacré à Dieu, est une bonne chose pour nous. Pour notre être tout entier, le corps, l'âme, l'esprit. Le travail n'est pas tout dans la vie. Voilà ce que nous dit ce jour. Et nous le disons en prenant du temps pour Dieu. Alors, rude question maintenant. Mais alors, pourquoi ne pratiquons-nous pas cette loi? De cette façon. Si le repos est une bonne chose, si le sabbat est une bonne chose, pourquoi donc sommes-nous réunis ici un dimanche? Non pas le septième jour, mais le premier jour de la semaine. Et donc un dimanche et non pas un samedi. Pourquoi faisons-nous le dimanche des choses qu'aucun juif pratiquant ne songerait à faire le jour du sabbat? Alors c'est bon de rappeler que la venue de Jésus-Christ a changé beaucoup de choses. Dans l'Ancien Testament, une grande partie de la loi on peut appeler ça les lois cérémonielles, c'est les lois concernant le culte, dont les lois concernant les sacrifices d'animaux par exemple. Toutes ces lois, toute cette loi cérémonielle cesse de s'appliquer à cause de Jésus. Jésus-Christ a offert en sa personne un sacrifice sur la croix, un sacrifice unique pour le péché, c'est ce que nous allons célébrer cette semaine, un sacrifice valable une fois pour toutes. On n'a pas à le recommencer, on n'a rien à y ajouter. Et donc, toutes les lois qui annonçaient le sacrifice de Jésus-Christ, toutes ces lois cérémonielles, sont accomplies en Jésus-Christ. On n'a pas donc à les accomplir aujourd'hui. On peut dire aussi que toutes les lois concernant, il y avait beaucoup de lois en Israël qui concernaient la vie de la nation. Une nation bien particulière, un peuple avec des frontières. Toutes ces lois cessent de s'appliquer, puisque aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes issus de toutes les nations. Nous n'avons pas un pays particulier. Nous sommes issus de toutes les nations. Nous nous retrouvons dans une nouvelle entité spirituelle qui est l'Église. Une entité sans territoire, sans tribunaux, sans armée et sans impôts, comme dans l'Ancien Testament pour l'État d'Israël. Et puis le sabbat, donc, en tant que signe distinctif, était un signe distinctif du peuple d'Israël et il n'a plus la même importance donc aujourd'hui. Alors, on approfondit ça en voyant ce que Jésus a dit du sabbat. Jésus et le sabbat. Vous vous rappelez toutes les discussions entre Jésus et les pharisiens au sujet du sabbat. Ça prend une partie de l'évangile. Jésus était respectueux de la loi. Et tellement, il était si respectueux de la loi, mais il s'est toujours positionné en faveur d'une approche plus souple du jour du repos. Et on le voit dans les évangiles. Il y avait quelque chose de plus important, a-t-il dit, que l'institution du sabbat. C'était l'être humain. Et Jésus dit en Jean 5, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le Fils de l'homme, donc le Seigneur Jésus, est maître même du sabbat, même maître du repos. Et donc, il a dit encore quelque chose de plus étonnant à propos du repos de Dieu, le septième jour. Il a dit toujours en Jean 5, verset 17, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est énorme comme parole. Jésus a travaillé un jour de sabbat pour guérir un malade, et ça arrivait plusieurs fois. Et Dieu aussi, dit Jésus, est à l'œuvre dans son jour de sabbat. Le septième jour, le jour de repos, est toujours... n'a pas été terminé. On est toujours dans le septième jour de Dieu. Et Dieu travaille, il continue, ce jour continue à courir jusqu'à présent, et Dieu il travaille, et Jésus, Fils de Dieu, égal au Père et à l'Esprit, il travaille également dans son œuvre de rédemption, son œuvre de salut pour tous les hommes. Alors, qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Paul alors? L'apôtre Paul déclare « La loi possède l'ombre des biens à venir, mais la réalité est en Christ. » Colossiens 2, 16, 17. C'est-à-dire que la loi, c'était l'ombre. Quand on a la lumière, on n'a plus besoin. La lumière chasse l'ombre. Et donc, la réalité est en Christ. Nous ne sommes plus, nous nous intéressons plus à l'ombre des biens à venir, puisqu'aujourd'hui, nous avons la réalité qui est en Christ. Et réalité supérieure à l'ombre. Et donc on peut dire que quantité, Paul nous dit que quantité de lois de l'Ancien Testament étaient comme des prophéties qui parlaient de Jésus, qui parlaient de la nouvelle alliance. Il y a une quantité de lois qui pointaient vers une réalité plus grande, une réalité plus forte qui se trouve en Christ aujourd'hui. Et le sabbat fait partie de ces lois, donc le sabbat pointe vers le fait qu'en Christ, eh bien, nous nous reposons. En Christ, nous trouvons le repos de nos œuvres. Nous trouvons le repos spirituel, comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Nous trouvons en Christ le repos de nos œuvres. Et c'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 4, 10. Lorsque nous croyons en Christ et en son évangile, eh bien, nous nous reposons de nos œuvres. En tant que chrétiens, nous avons tous vécu ça. Nous vivions une vie d'œuvre en essayant de plaire à Dieu de toutes sortes de façons, en accomplissant des prières, en accomplissant des actes, des sacrifices. On ne savait jamais si on était vraiment, si Dieu nous aimait, si on était réconcilié avec lui, si on était en communion avec lui. On ne savait jamais rien, aucune assurance, aucune paix, aucune joie. Et puis un jour, eh bien, nous avons été déchargés de ce fardeau. Nous avons été déchargés du lourd fardeau de devoir faire nos preuves, de devoir mériter notre salut, ce que nous ne pouvions pas faire. Ce fardeau a été enlevé de nos épaules. Et donc, nous avons trouvé le repos en Jésus, hein, qui, lui, a pris nos péchés sur la croix, hein, et a acquis le salut par ses propres mérites, hein, et a mis tous ses mérites sur notre compte. Hein, et nous sommes justifiés par la foi, hein, par le Christ, par la grâce, par le moyen de la foi. Hein. Et donc, le sabbat est l'image du salut. En Christ, nous ne travaillons plus pour obtenir une reconnaissance de la part de Dieu. En Christ, nous recevons le pardon de Dieu par la foi et non pas par les œuvres. Nous pouvons nous reposer sur lui, nous pouvons nous reposer de cette vie de mérite et croire dans les mérites du Christ. Et on peut appeler ça le repos spirituel qu'on trouve en Jésus-Christ. Et donc, au cours de notre vie terrestre, en notre vie chrétienne, nous expérimentons déjà ce repos. Déjà, nous sommes dans la joie, dans la paix de notre salut. Mais un jour, nous aurons le salut complet. Un jour, nous aurons le repos complet. Nous jouirons pleinement de ce repos dans l'avenir. Hein, lorsque nous nous trouverons dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, lorsque le péché ne sera plus là du tout. Hein, alors là, nous aurons la paix parfaite. Et un beau cantique, hein, paix parfaite et repos parfait. Hein. Nous goûterons la paix parfaite, le repos parfait. Hein. Et chaque dimanche, quand nous nous rassemblons en tant que chrétiens, eh bien, nous pouvons avouer que nous recherchons encore une partie de ce repos. Nous désirons ce repos parfait. Hein. Mais c'est réconfortant de savoir, hein, que chaque dimanche que nous passons ensemble, eh bien, annonce ce grand jour de repos parfait. Nous pouvons être là, nous pouvons être fatigués, mais nous savons qu'un jour, hein, eh bien, ce repos parfait nous sera complètement donné. Ça sera alors la paix parfaite, le repos parfait. Nous renouvelons nos forces dans l'attente de ce jour. Et donc, si nous revenons à Paul, nous voyons que quand Paul avait à régler des conflits culturels entre juifs et non-juifs dans les églises, il n'a jamais dit que tout le monde devait s'aligner sur le sabbat. Jamais. Il a dit que la question des jours était sans importance pour Dieu. Il le dit, par exemple, et que en Romains 14, 5, hein, il dit que chacun doit faire selon sa conscience. Romains 14, 5. Pour celui-ci, tel jour vaut mieux qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Romains 14, verset 5. Et puis en Galates 4, 10, 11, il dit la même chose. Galates et Romains ont beaucoup de correspondances. Hein. Vous observez des jours spéciaux? Vous observez les nouvelles lunes, les fêtes à la fin de chaque mois? Vous observez certaines saisons? Vous observez certaines années? Je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile, dit-il. Donc, vouloir à tout prix respecter le sabbat et les autres jours de fête, les nombreux jours de fête de l'Ancien Testament, est un retour en arrière, quelque part. C'est comme si le Christ n'avait pas accompli toute la loi. C'est comme si il fallait ajouter quelque chose à Jésus-Christ, qui est notre repos. C'est comme si nous n'avions pas tout pleinement en lui, comme dit Colossiens chapitre 2. Alors, dans les églises des premiers temps, dans les églises des premiers chrétiens, comment on faisait? Eh bien, les réunions devaient avoir lieu le samedi soir, certainement, hein, ou le dimanche matin à l'aube, ou à d'autres moments encore, quand les esclaves n'étaient pas au travail. Parce que tout le monde, les esclaves qui faisaient la grande partie de l'église, hein, et travaillaient 7 jours sur 7, presque nuit et jour. Hein. Donc, il fallait trouver un moment en fin de journée ou à l'aube, hein, avant que le travail ne commence. Hein. Il y avait des habitudes, mais il n'y avait pas de loi générale, hein, à ce moment-là. Si nous étions à Tunis, hein, notre frère, qui est absent aujourd'hui, mais a passé une grande partie de sa vie chrétienne à Tunis, dans une église, hein, eh bien, si nous étions à Tunis, nous aurions notre culte le vendredi. Si nous étions à Jérusalem, ce serait le vendredi soir ou le samedi. Mais nous sommes en France, et c'est dimanche. C'est le dimanche, qui est le jour de repos depuis surtout la loi de 1906. Et donc ce dimanche, bien sûr, est de moins en moins un jour spécial aux yeux de la loi, puisqu'on fait toutes sortes de dérogations. Et nous aurons un jour sans doute à nous adapter, hein, comme au premier siècle. Alors, que faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste alors du repos, hein, du sabbat? Qu'en est-il de notre dimanche? C'est donc ce point-là. Aujourd'hui, eh bien, il nous reste une sagesse et une célébration. Il nous reste une sagesse. Avant l'intervention des armes à feu, les hommes utilisaient une autre arme qui permettait de frapper à distance, c'était l'arc. Alors, vous n'avez plus fait d'arc depuis votre tendre enfance, j'imagine. Mais il faut se rappeler qu'une flèche, un arc de bois incurvé et une corde. Mais si l'arc était constamment tendu, il perdait son élasticité, il perdait sa force. Il fallait donc défaire la corde quand on n'en avait pas besoin et la remettre avant de partir à la chasse ou à l'attaque. Et le bois et la corde avaient besoin de repos. C'était la sagesse. Et ça nous rappelle que l'être humain a besoin de repos, on l'a dit. C'est une question de sagesse, une sagesse oubliée. Traditionnellement, ce repos donc se prend le dimanche, ce qui permet d'entretenir la vie de famille, puisqu'on le prend ensemble. Et on peut entretenir ainsi la vie de famille et les amitiés. Si vous êtes obligé de travailler le dimanche, organisez-vous pour vous reposer un autre jour. Mais ayez un jour de repos régulier. C'est la sagesse. Et si vous avez le choix, si Dieu vous donne le choix, eh bien, prenez votre jour de repos en même temps que le reste de votre famille. C'est tellement important de prendre ce jour ensemble. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une célébration aussi. Le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, il est arrivé à un événement capital dans l'histoire du monde. Le Christ est ressuscité. Non seulement c'est le jour des rameaux qui arrive un dimanche, le Christ est ressuscité un dimanche, le jour de la Pentecôte c'était un dimanche aussi, mais en tout cas l'événement central, le Christ est ressuscité. C'était à l'époque un jour de travail, mais les chrétiens des premiers siècles ont commencé à se retrouver de plus en plus ce jour-là pour rompre le pain, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Et nous en avons quelques traces dans le Nouveau Testament, où il est dit qu'ils se retrouvaient le premier jour de la semaine pour les offrandes, pour plein de choses comme ça. Et dans les écrits du deuxième siècle, aussi, beaucoup, beaucoup de témoignages que c'était devenu la coutume des premiers chrétiens. Le dimanche est devenu un jour spécial en l'honneur du Christ ressuscité. Non pas une obligation, mais un choix. Un choix motivé par le cœur, un choix motivé par un désir ardent d'amour fraternel, un choix motivé par un désir ardent de célébration, un choix motivé par un désir ardent de communion avec Dieu. Alors si vous ne rejoignez pas vos frères et sœurs le dimanche, c'est une façon pour vous de dire que la résurrection du Christ ne mérite pas qu'on la fête. Si vous ne rejoignez pas vos frères et sœurs le dimanche, c'est une façon de dire que l'Église ne vous concerne pas. Si vous ne rejoignez pas vos frères et sœurs le dimanche, c'est une façon de dire que les frères et sœurs ne sont pas de votre famille. Alors, si vous êtes obligé de travailler le dimanche, faites donc de votre mieux pour vous joindre à une réunion de semaine, une étude biblique, une réunion de prière, à un autre moment de la semaine. C'est toujours ça. Et puis, essayez bien sûr de célébrer votre dimanche à vous pour marquer devant Dieu ce jour particulier. Mais si vous en avez le choix, donc, et si Dieu vous en donne le choix, libérez-vous le plus tôt possible pour être avec les frères et les sœurs à la fois. Par les choix que vous ferez, vous direz au monde ce qui est important pour vous. C'est vrai dans d'autres domaines. Mais c'est vrai également dans ce domaine. Alors je termine par un petit tableau. Un petit tableau qui nous dit, qui va avoir une portée plus pratique. Alors 10 idées pour que le dimanche, même peut-être 11, pour que le dimanche soit un jour spécial. Pour qu'il soit spécial. Voilà, tout d'abord, c'est un jour pour Dieu. Je l'avais mis en gros, mais on me l'a changé. Donc d'abord, c'est un jour pour Dieu. Et dans cette rubrique, il y a trois choses. Un jour pour Dieu. Pour que ça soit un jour spécial, il faut que ça soit un jour pour Dieu. Alors dans cette première chose, ne pas se coucher trop tard le samedi. Ça va de soi, hein, mais on sait bien que si on se couche trop tard le samedi, on n'a pas envie de se lever le dimanche matin. Hein. Et pourtant, c'est en se levant le dimanche matin qu'on apporte un grand témoignage. Hein. Les gens dans les immeubles, ils entendent quand on va mettre le chien le soir après le film, quand on sort le chien. Ils entendent aussi quand on se lève le dimanche matin. Hein. Ils disent, ah, ça c'est Alfred. Ou... Non, c'est Émile, je veux dire. Émile qui est en train de se lever hein, pour aller au culte. Ah, aujourd'hui il est en retard. Hein. Ah, aujourd'hui il fait la grasse matinée. Hein. Les gens, nos voisins, ils entendent la voiture sortir, ils entendent tout. C'est un témoignage que de se lever hein, le dimanche matin pour aller régulièrement au culte. Ne pas se coucher trop tard pour ça. Autre chose, ne pas rater les 10 premières minutes du culte. Ça aussi, hein, c'est important. Hein, une église à laquelle les gens arrivent à l'heure, hein, et bien c'est un témoignage rendu à Dieu, un vrai témoignage. Hein. Une église pleine et des gens qui arrivent à l'heure, c'est un témoignage en soi. Hein. Et puis c'est important pour nous, hein, si nous voulons faire de ce jour un jour pour Dieu, eh bien les 10 premières minutes du culte sont les plus importantes. Hein, sont les plus importantes. Et puis faire aimer le culte aux enfants. Hein. Nous venons avec nos enfants, nous sommes appelés à faire aimer le culte à nos enfants, c'est important. Hein. Eh bien, en les gardant autour de nous, hein, dans la première partie du culte, en les stimulant, en les encourageant, hein, en les aidant à être attentifs, hein, à faire des choses en rapport hein, avec cette parole qui est entendue, en les aidant à chanter, hein, en les incitant, en stimulant, en les encourageant à chanter, en chantant soi-même, hein, en les incitant à sourire, en souriant nous-mêmes, hein, pendant la louange, hein. Un jour de repos. Autre idée pour que le dimanche soit spécial, pour que ça soit vraiment un jour de repos. Eh bien d'abord, faire ses devoirs la veille. Faire ses devoirs la veille. Hein. Ça s'adresse à tous. Hein. Alors, qu'on soit élève, qu'on soit étudiant, hein, on peut faire ses devoirs la veille. Hein. Il y a toujours des exceptions, bien sûr. Mais malgré tout, hein, c'est important de réfléchir ainsi. Hein. Choisir un menu simple et le préparer la veille. Ça n'existe pas parmi nous, mais il y a des églises, où il y a eu des églises, où l'épouse restait à la maison pour préparer le repas de famille, qui était le plus important de toute la semaine. Elle ne pouvait pas venir au culte. Et tout le monde trouvait ça normal. Hein. Non, il faut être simple. Hein. Choisir un menu simple qu'on peut préparer la veille, c'est toujours possible. Faire la sieste, hein. C'est important. On a un corps. Hein. Une façon de mettre ce qu'on a dit en pratique, c'est de pouvoir faire la sieste le jour du repos. Éviter de faire ses courses, parce qu'il n'y a rien de plus stressant que de faire ses courses. Et si on le fait le jour du repos, alors là, on a tout perdu. Hein. Éviter de gros travaux. Et puis, le dimanche est un jour pour les autres. Hein. Alors, il y a aussi plusieurs petites choses qui peuvent nous aider. Hein. Inviter régulièrement... Hein, des frères et sœurs pour le repas ou le goûter, hein, tellement de façons de faire, indifférentes. Ça aussi, c'est une façon de faire du dimanche un jour pour les autres, d'en faire un jour spécial. Une autre façon, c'est de faire une activité en famille l'après-midi. Hein. Sortir, faire quelque chose, n'importe quoi. Hein. Certains disent que le matin, on ouvre le livre écrit par Dieu, hein, la Bible. L'après-midi, on est incité à ouvrir le livre de la nature, l'autre livre de Dieu. Hein. Se promener dans des endroits apaisants, hein, ou en forêt quand c'est possible, admirer hein, par la foi tout ce que Dieu a fait et lui rendre grâce, c'est une façon d'honorer Dieu. Hein. Mais il y a d'autres façons. Faire une activité en famille, quelle qu'elle soit, c'est une façon de faire un jour spécial pour les autres. Et enfin, téléphoner à un parent au loin, hein, ou à un frère ou sœur qui est malade, qui n'est pas là. Hein. C'est aussi hein, une attention qui va dans l'esprit de l'Évangile. Et je n'ai pas ajouté, ah si, j'ai ajouté, dans les anciens livres, j'avais lu ça il y a quelques années, c'était au début du siècle, « Donnez un congé complet du dimanche à vos domestiques. » Les gens avaient des domestiques, ils allaient à l'église, mais les domestiques devaient rester là pour préparer le repas. Et ça ne venait à l'idée de personne qu'il fallait leur donner leur jour de congé ce jour-là, ou leur proposer ce jour-là comme congé. Non, non. Alors là, il y a une application à faire. Nos domestiques aujourd'hui, bah, voilà. C'est quand on va, après le culte, quand on va faire ses courses. Hein. Alors bien sûr, chacun doit appliquer ça comme il le veut, comme il le peut. Mais nos domestiques, hein, c'est parfois des achats. Hein. Des achats sans nécessité qu'on fait le dimanche, hein, par commodité. Et on oblige ainsi les gens à travailler alors qu'on n'aime pas travailler ce jour-là. Hein. Pas le faire au prochain, ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. Hein. Donner un congé à ses domestiques, c'est donner un congé aussi à notre ordinateur, qui est notre domestique, qui est notre maître, on l'a dit hier soir, pas, bien souvent, hein, mais qu'on doit domestiquer, en tout cas, donner du congé à certains de nos machines, à certaines de nos machines, et se reposer, hein, et les laisser se reposer, ainsi mieux se reposer nous-mêmes. On peut faire tellement d'applications, ce ne sont que des exemples. Mais Dieu peut nous aider, hein, à appliquer toutes ces choses qu'on vient de dire à aujourd'hui. Dans le temps jadis, il y avait une très forte pression sociale pour respecter le dimanche. Les gens se pliaient à cette pression, hein, malgré eux parfois. Hein. Bien sûr, certains étaient sincères par motif de conscience, mais beaucoup n'avaient pas envie, hein, de se démarquer, ils suivaient la masse. Aujourd'hui, c'est inverse. Hein. Si vous vous démarquez, si vous faites du dimanche un jour spécial, voilà, on est complètement porte-à-faux par rapport à la société. Est-ce que nous allons avoir le courage de le faire? Voilà la bonne question. Le quatrième commandement en tant que tel se trouve dépassé par le repos du Christ, on l'a dit. Mais avoir du temps pour Dieu, respecter les besoins de son corps, ça ne sera jamais dépassé, tant que nous serons des hommes. Et ne demandez pas si vous avez le droit de faire ceci ou cela, hein. Le Seigneur Jésus n'a pas enseigné de cette façon-là. Hein. Faites plutôt ce que vous avez envie de faire, hein. Parce que vous avez un désir ardent d'amour fraternel étant chrétien, parce que vous avez un désir ardent de célébration, parce que vous avez un désir ardent de communion avec Dieu. Hein. Car c'est par l'attitude de votre cœur que vous allez montrer ce qui est important pour vous devant tous. Et Dieu lira dans votre cœur, et le monde lira aussi ce qu'il y a dans votre cœur. Amen.